Le mystère de la foi avec Monseigneur Marc Hayet.
Voilà, même si je ne suis pas tout à fait l'ordre de cet article du catéchisme, hein, qui parle de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, de l'unité des deux testaments, c'était pour mieux préciser la valeur de l'Ancien Testament que j'ai tout de suite passé à l'unité entre les deux testaments, mais il faut bien sûr que je dise un mot sur le Nouveau Testament. Hein. Le Nouveau Testament, c'est donc l'histoire de cette nouvelle alliance que Dieu veut faire avec l'humanité tout entière. D'une certaine manière, dans l'Ancien Testament, il choisit un peuple parmi tous les peuples, mais pour en faire la lumière des nations. Voyez, Israël est appelé normalement à être le médiateur entre Dieu et l'humanité tout entière. Il est appelé à communiquer cette alliance qu'il vit avec Dieu à tous les hommes. Or, comme on le sait, le peuple de l'ancienne alliance, le peuple élu, le peuple juif, et c'est ce que Jésus reprochera aux juifs, comme dit saint Jean, mais quand saint Jean dit les juifs, entendez-moi bien, il veut dire les chefs du peuple juif, ces chefs du peuple juif qui l'ont mis à l'épreuve et qui l'ont condamné à mort et qui l'ont livré aux mains des pécheurs, c'est-à-dire des Romains, des païens. Il faut bien comprendre que ce peuple, eh bien, s'est refermé jalousement sur son privilège, sur son élection, sur son alliance, et n'a pas été capable d'accueillir toutes les nations dans cette alliance. Vous voyez, c'est précisément ce que Jésus reprochera en disant bah, « Vous avez gardé ça pour vous. Hein. » Et or, Dieu appelle tous les hommes au salut. Et donc, ce que Israël, le peuple d'Israël, n'a pas été capable de faire, eh bien, Jésus, hein, qui d'une certaine manière est le nouvel Israël, hein, eh bien, lui va l'accomplir. Hein, il va accomplir cette alliance nouvelle et définitive, non plus seulement avec les brebis perdues d'Israël, même si au départ il dit qu'il est envoyé d'abord aux brebis perdues d'Israël, pour bien montrer que la première alliance n'est pas caduque, mais à toutes les nations. Hein, et il enverra en effet ses disciples de manière universelle à proclamer l'Évangile dans le monde entier et à faire de toutes les nations des disciples. Vous voyez, donc c'est ça qui change évidemment. Et alors à ce moment-là, puisque le peuple blessé par le péché qu'il exprime à travers toutes ses infidélités à l'Alliance n'a pas été capable de rassembler les hommes dans l'unité de l'Alliance avec Dieu, eh bien Jésus, c'est le Fils de Dieu, fait homme, hein, qui devient le médiateur unique entre Dieu et les hommes, parce qu'il communie aux deux extrêmes de la médiation. Il est à la fois vrai Dieu et à la fois vrai homme, recevant cette humanité de la Vierge Marie. Voilà. Donc, le Nouveau Testament, eh bien, c'est la Nouvelle Alliance qui s'est accomplie en Jésus-Christ à travers sa prédication et à travers sa vie et ses actes qui confirment sa prédication. Tout cela ayant été consigné, d'une certaine manière, par les témoins oculaires, que sont des apôtres ou des disciples de la première heure, dans ce que l'on appelle les évangiles. Hein. Le mot évangile appartenait déjà au vocabulaire des Romains, hein, pourrait-on dire. L'évangile qui veut dire « bonne nouvelle », c'était pas seulement une bonne nouvelle comme on se donne une bonne nouvelle le matin en se réveillant, ou qu'on apprend une bonne nouvelle qui se passe dans notre famille. C'était un évangile, c'était cette bonne nouvelle que l'empereur envoyait à une portion de peuple peuplant l'Empire romain pour leur donner une nouvelle qui était suivie des faits. Une nouvelle qui était comme performative, comme on dit, capable de s'accomplir dans la vie du peuple. Donc c'est pas seulement une bonne nouvelle à dessous, voyez. Et donc le terme a été repris dans le Nouveau Testament par les auteurs du Nouveau Testament parce que la bonne nouvelle que Dieu donne au peuple, C'est l'accomplissement du salut en Jésus-Christ. Cette parole, qui n'est pas seulement une donnée pour notre instruction, pour augmenter notre savoir, mais qui est une parole qui est capable de nous donner la vie. Une parole qui est capable de nous transformer. Jésus proclamait l'évangile du salut. Et pour bien montrer la puissance de cette parole, qui est du même ordre que la parole créatrice, au commencement, eh bien, il accomplit des gestes dont Dieu seul peut être la cause, qu'humainement on ne peut pas expliquer, qu'on appelle dans les évangiles synoptiques, c'est-à-dire les évangiles qu'on peut lire de manière parallèle, parce qu'ils ont la même construction, Matthieu, Marc et Luc, des miracles, et que saint Jean appellera plutôt des signes, des signes de la puissance de Dieu, des signes de la puissance de l'amour de Dieu pour les hommes. Voilà. Et donc l'évangile a été d'abord, qu'est-ce que c'est la source de l'évangile? La première étape, c'est la vie et l'enseignement de Jésus. Nous croyons et nous attestons de manière ferme l'historicité des évangiles qui nous transmettent donc fidèlement l'existence de Jésus-Christ, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit durant sa vie parmi les hommes, ce qu'il a réellement fait et enseigné pour leur salut jusqu'au jour où il était enlevé au ciel. Vous voyez, donc ça, c'est le noyau central de l'évangile, la vie et l'enseignement de Jésus dont nous affirmons l'historicité. Et puis ensuite, vous avez la tradition orale, c'est-à-dire ce que le Seigneur a fait et dit, ce sont les apôtres après son ascension, et dans la puissance de l'Esprit Saint qu'ils ont reçu au jour de la Pentecôte, qui leur a permis de le transmettre fidèlement à leurs auditeurs. Ils ont commencé à prêcher tous azimuts ce que Jésus a dit et ce que Jésus a fait. Et voilà pourquoi, lorsqu'il va falloir choisir un 12e apôtre après la défection de Judas, on tirera au sort, après avoir prié l'Esprit Saint, pour prendre un parmi les disciples qui avait accompagné Jésus depuis le début de son ministère public et qui avait été témoin de sa résurrection. Et c'est Matthias qui a été choisi au début des Actes des Apôtres pour prendre la place de Judas. Et donc ils vont transmettre à travers une prédication orale. Et puis on va commencer sans doute à consigner par écrit, à travers des feuillets, qu'on appelle les feuillets évangiles, certaines choses que les apôtres ont prêchées. Pierre n'a pas écrit d'évangile, mais il a prêché. Et puis finalement, la troisième étape, ce sont les évangiles écrits. Mais vous voyez, comme on l'a déjà dit, l'écriture vient après la prédication orale. Parce que Jésus n'a rien écrit, Jésus a prêché. Et ce que les apôtres ont recueilli, avec la grâce de l'Esprit Saint que le Christ Jésus leur a promise, eh bien, ils ont non seulement interprété, ils ont transmis et même apporté du nouveau de la part de l'Esprit Saint pour mieux comprendre ce que Jésus a dit et fait. Et tout cela a ensuite été écrit. Les auteurs sacrés ont composé des livres, plusieurs livres. Il n'y a aucune contradiction entre ce que dit Matthieu, ce que dit Marc, ce que dit Luc, ce que dit Jean. Mais ils se complètent, comme quatre témoins d'événements qu'on a vécu déjà dans le passé. Eh bien, peuvent rapporter des choses, évidemment, et des aspects qui les ont davantage marqués que d'autres. C'est pourquoi il y a des différences, en effet, entre les différents évangiles.